France Culture.
Publié en 1957, Le château de ma mère est le deuxième des quatre romans autobiographiques de Marcel Pagnol, constituant la série Souvenirs d'enfance. Il est de ces romans celui qu'il disait préféré. En 1959, sur les ondes de la RTF, il en donnait une lecture en 23 épisodes dont nous allons entendre le deuxième. Au fil de ligne, qui ne devrait pas réjouir les ligues de protection des oiseaux et les adversaires de la chasse, on apprenait qu'il est des pays où l'existence d'une source doit rester un secret bien gardé. Le château de ma mère, lu par Marcel Pagnol, deuxième des 23 épisodes, diffusé le 14 mars 1959 sur France 2 régionale.
Veuillez écouter Le château de ma mère, une émission de Marcel Pagnol de l'Académie française, présentée par Pierre Loss.
Le jeune Marcel vient de faire une découverte merveilleuse. Il a rencontré un jeune garçon de son âge, le petit Lily des Belons, qui posait des pièges sur le plateau qui domine le puits du Mûrier. Tous deux viennent d'apercevoir un lièvre énorme qui plonge dans une cheminée. Deux détonations retentissent, puis deux autres.
Au bas des roches, nous prîmes le pas de course sur la pente. À côté du puits, sous de très grands pins, il y avait une petite clairière à l'ombre. Là, mon père et l'oncle regardaient le lièvre étendu. Ils se tournèrent vers nous assez fiers. Je demandai un peu timidement, « Qui l'a tué ?»«
Tous les deux, » dit l'oncle.
« Je l'ai touché deux fois, mais il courait toujours. Et il a fallu les deux coups de ton père pour qu'il reste sur place. » Ces bêtes-là, ça porte facilement le coup de fusil. Il le dit comme s'il s'agissait de porter une jaquette ou un chapeau melon. Il regarda ensuite mon nouvel ami. Ah ah, nous avons de la compagnie.
Je le connais, dit mon père.
Tu es bien le fils de François?
Oui, dit Lily. Vous m'avez vu à la maison pour Pâques.
Et il paraît que tu es un fameux chasseur.
C'est ton père qui me l'a dit.
Oh, dit Lily, rougissant. Je mets des pièges pour les oiseaux. Tu en prends beaucoup?
Il regarda d'abord autour de nous d'un rapide coup d'œil circulaire, puis il vida sa musette sur l'herbe, et je fus confondu d'admiration. Il y avait une trentaine d'oiseaux.
« Tu sais, dit-il, ce n'est pas difficile. Le tout, c'est d'avoir les aludes. Je sais un seau là en bas, au Vala. Si tu es libre demain matin, nous irons en chercher, parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. »
L'oncle examinait le tableau de chasse du petit bonhomme.
« Oh, oh, dit-il en le menaçant gentiment de l'index, tu es donc un vrai braconnier. »
Il répondit d'un air surpris. « Moi ? Je suis des Belons. »
Mon père lui demanda le sens de cette réponse.
« Ça veut dire que ces collines, c'est le bien des gens d'ici. Ça fait qu'on n'est pas des braconniers. »
Son point de vue était fort simple. Tous les braconniers de la Treille étaient des chasseurs, tandis que les chasseurs d'Allo ou de la ville étaient des braconniers. Nous déjeunâmes sur l'herbe. La conversation de Lily nous intéressa vivement, car il connaissait chaque vallon, chaque ravin, chaque sentier, chaque pierre de la colline. De plus, il savait les heures et les mœurs du gibier. Mais sur ce chapitre, il me parut un peu réticent. Il ne fit que répondre aux questions de l'oncle Jules, parfois d'une manière assez évasive, et avec un petit sourire malin. Mon père dit, « Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. À part le puits du Mûrier, est-ce qu'il y en a d'autres ?»«
Bien sûr, » dit Julie. Mais il n'ajouta rien.
« Il y a la baume de Passe-Temps, » dit l'oncle. « Elle est sur la carte d'état-major. »
Il y a aussi celle des escaupes, dit Lily. C'est là que mon père fait boire ses chèvres.
C'est celle que nous avons vue l'autre jour, dit l'oncle.
Il y en a certainement d'autres, dit mon père. Il est impossible que dans un massif aussi vaste, les eaux de la pluie ne ressortent pas quelque part.
Il ne pleut peut-être pas assez, dit l'oncle Jules. Détrompez-vous, s'écria mon père. Il tombe à Paris 0,45 m de pluie par an. Ici, il en tombe 0,60 m.
Je regardais Lily avec fierté et je fis un petit clin d'œil qui soulignait l'omniscience paternelle. Mais il ne parut pas comprendre la valeur de ce qui venait d'être dit.
Étant donné que le sol des plateaux est fait de tables rocheuses imperméables, poursuivit mon père, il me semble tout à fait certain qu'un ruissellement important doit se rassembler dans les vallons, en poches souterraines,
et il est fort probable que certaines de ses poches affleurent et suintent dans les endroits les plus creux. Tu connais sûrement d'autres sources ?
J'en connais 7, dit Gilly.
Et où sont-elles ?
Le petit paysan parut un peu embarrassé, mais il répondit clairement.
C'est défendu de le dire.
Mon père fut aussi étonné que moi.
Pourquoi donc ?
Lily rougit, avala sa salive et déclara « Parce qu'une source, ça ne se dit pas. »«
Qu'est-ce que c'est que cette doctrine ?» s'écria l'oncle.
« Évidemment, dit mon père, dans ce pays de la soif, une source, c'est un trésor. » »«
Et puis, dit Lily, Candide, si ça avait les sources, il pourrait y boire. »«
Qui donc ? » ?»«
Ceux d'Allot ou bien de Pépin. » »« Et alors, il viendrait chasser ici tous les jours. »
Il s'anima brusquement.
« Et puis, il y aurait tous ces imbéciles qui font les excursions. » Depuis qu'on leur a dit la source du petit homme, de temps en temps, ils viennent au moins 20. D'abord, ça dérange les perdreaux. Et puis, ils ont volé les raisins de la vigne de Chabert. Une fois, ils avaient mis un écriteau. Nous avons pissé dans la source.
Pourquoi ? Dit mon oncle.
Je lui répondis sur un ton tout à fait naturel. Parce que Chabert leur avait tiré un coup de fusil.
Un vrai coup de fusil, dis-je.
Oui, mais de loin, avec du petit plomb.
Il n'a qu'un cerisier, et les autres lui volaient ses cerises, dit Lily avec indignation.
Mon père a dit qu'il aurait dû tirer à chevrotine.
« Voilà des mœurs un peu sauvages, » s'écria mon oncle.
« C'est eux les sauvages, » dit Lily avec force.
« Il y a 2 ans, pour faire cuire la côtelette, ils ont mis le feu à la pinette du jas de moulet. »
Heureusement, c'était une petite pinette, il n'y avait rien à côté. Mais s'ils faisaient ça dans passe-temps, imaginez-vous un peu.
« Évidemment, » dit mon père, « les gens de la ville sont dangereux parce qu'ils ne savent pas. »«
Quand on ne sait pas, » dit Lily, « on n'a qu'à rester à la maison. »
Il mangeait de grand cœur l'omelette aux tomates.
« Mais nous, » « Nous ne sommes pas des excursionnistes, nous ne salissons pas les sources, et tu pourrais nous dire où elles sont. »«
Je voudrais bien, » dit Lily, « mais c'est défendu.
Même dans les familles, ça ne se dit pas. »«
Dans les familles, » dit mon père, « ça c'est encore plus fort. »«
Il exagère peut-être un peu, » dit l'oncle.
« Oh non, c'est la vérité. Il y en a une que mon grand-père connaissait. Il n'a jamais voulu la dire à personne. »«
Alors comment le sais-tu ? » ?»«
C'est parce que nous avons un petit champ au fond de passe-temps. » Des fois, on allait labourer pour le blé noir. Alors à midi, au moment de manger, le papé disait « Ne regardez pas où je vais. » Et il partait avec une bouteille vide. Je demandais « Et vous ne regardiez pas ?»«
Oh, bonne mère, il aurait tué tout le monde. »
Alors nous autres, on mangeait assis par terre sans tourner l'œil de son côté. Et au bout d'un moment, il revenait avec une bouteille d'eau glacée.
Mon père demanda « Et jamais vous n'avez rien su ?»
Parce qu'il paraît que quand il est mort, il a essayé de dire le secret. Il a appelé mon père et il lui a fait « François, la source !» Et toc, il est mort. Il avait attendu trop longtemps. Et nous avons eu beau la chercher, nous ne l'avons jamais trouvée. Ça fait que c'est une source perdue.
« Voilà un gaspillage stupide !» dit l'oncle.
« Eh oui, » dit Lily mélancolique. « Mais quand même, peut-être, elle fait boire les oiseaux. » Avec l'amitié de Lily, une nouvelle vie commença pour moi. Après le café au lait matinal, quand je sortais à l'aube avec les chasseurs, nous le trouvions assis par terre sous le figuier, déjà très occupé à la préparation de ses pièges. Il en possédait 3 douzaines, et mon père m'en avait acheté 24 au bazar d'Aubagne, qui les vendait hypocritement sous le nom de pièges à rats. J'avais vivement insisté pour obtenir quelques engins d'un plus grand modèle, spécialement conçus pour l'étranglement des perdreaux.
« Non, me dit-il, il serait déloyal de piéger un si beau gibier. »
Je contestai alors la loyauté de son arquebuse, qui foudroyait par surprise ses volatiles stupéfaits.
« Tandis que contre un piège, dis-je, une perdrix peut se défendre, parce qu'elle est intelligente, elle est rusée, elle a quand même une chance de s'en tirer. »«
Oui, peut-être, dit-il, mais tout de même le piège n'est pas une arme noble. » »«
Et puis j'ai une autre raison. Le ressort de ces engins est vraiment trop puissant. Tu risquais de te casser un doigt. »
Je lui prouvai aussitôt que je savais les manier avec une aisance parfaite qu'il fut forcé de reconnaître. Et comme j'insistais encore, il finit par dire à mi-voix « Et puis ils sont trop chers. » Je feignis de ne pas avoir entendu et je m'élançai en poussant un cri de joie vers un lance-pierre raisonnable qui s'offrait au prix de 3 sous. Les pièges à rats, qui n'étaient pas plus grands qu'une soucoupe, se révélèrent d'une efficacité redoutable. Ils sautaient au cou de l'oiseau avec une nervosité si grande qu'un gros merle n'y échappait pas. Tout en rabattant le gibier vers nos chasseurs, nous placions nos engins sur le sol au bord des barres ou sur une branche fourchue que nous brisions pour la mettre à plat au cœur même d'un térébinthe que Lily appelait pétélin. Cet arbre qui pousse si bien dans les poèmes bucoliques fait des grappes de graines rouges et bleues dont tous les oiseaux sont friands. Un piège dans un térébinthe, c'est la capture assurée d'un courroucé, d'un merle, d'un pinson vert ou d'une grive. Nous les placions en montant vers les sommets pendant toute la matinée. Puis notre quatuor s'arrêtait pour déjeuner auprès d'une source, sous l'ombre claire d'un pin. Les carniers étaient toujours bien garnis, mais nous dévorions jusqu'aux miettes. Pendant que nous mangeons l'omelette aux tomates, délicieuse quand elle est froide, les côtelettes grésillaient sur une braise de romarin. Parfois l'oncle Jules, la bouche pleine, saisissait brusquement son fusil et tirait vers le ciel à travers les branches sur quelque chose que personne n'avait vu. Et tout à coup tombait une palombe, un loriot, un épervier. Quand il ne restait plus rien d'autre que les os des côtelettes et la croûte du fromage, les chasseurs étendus sur un lit de bauque faisaient la sieste, un mouchoir sur le visage, à cause des petites mouches, tandis que nous remontions vers les bars pour la première visite de la tendue. Nous avions une mémoire infaillible des lieux, des arbres, des arbustes, des pierres. D'assez loin, je voyais tout de suite qu'un piège n'était plus à sa place. Je m'élançais avec l'émotion d'un trappeur qui s'attend à trouver le cadavre d'une zibeline ou d'un renard argenté. Presque toujours, je découvrais sous l'arbre ou près de la stèle l'oiseau étranglé le piège au cou. Mais quand nous ne trouvions rien, alors l'émotion était à son comble, pareille à celle d'un joueur à la loterie qui vient d'entendre proclamer les trois premiers chiffres de son numéro et qui attend le tirage du quatrième. Plus loin est le piège, plus grosse est la proie qui l'entraîna. Nous battions les broussailles en cercle concentrique autour du lieu du guet-apens. Souvent, c'était un beau merle, une lourde grive des Alpes, un ramier, une caille, un jet. D'autres fois, nous ne retrouvions pas l'engin, emporté par quelque épervier, avec la proie qu'il avait prise et dont l'agonie aux ailes battantes avait attiré le voleur. D'autres fois, enfin, c'était une déception ridicule, un gros rat, un limbert énorme, un grand scolopendre couleur de miel. Un jour même, après de longues recherches pleines d'espoir, nous découvrîmes une chouette blanche. Très haute sur ses pattes jaunes, toutes ses plumes hérissées, elle dansait le piège au cou. À demi suffoquée et chuchotant des maléfices, elle nous accueillit d'un air mécontent, en ouvrant immensément ses yeux emplumés. Comme je m'approchais, un peu inquiet, elle fit tout à coup un bond étrange, car elle lança ses pattes en avant jusqu'à la hauteur du piège qu'elle saisit à pleine serre en retombant sur son croupion. Elle eût certainement réussi à se dégager si elle n'avait pris qu'une seule des branches de laiton, mais elle serrait les deux à la fois sur son cou fragile et déjà meurtri. La mort toute proche lui ouvrit le bec. Alors, rassemblant ses dernières forces, elle repoussa violemment l'engin et d'un seul coup s'arracha la tête. Cette boule de plumes projetée au ciel dut croire un instant qu'elle s'envolait, mais elle retomba sur le gravier, le bec en l'air, les yeux encore agrandis de surprise. Lorsque bien plus tard au lycée, M. Laplane nous enseigna que la chouette était l'oiseau de Minerve et qu'elle représentait la sagesse, je fis un si grand éclat de rire qu'il me fallut copier jusqu'au gérondif quatre verbes qui de plus étaient déponents.
Venez d'entendre Le Château de ma mère, une émission de Marcel Pagnol de l'Académie française présentée par Pierre Loss.
C'était le deuxième des 23 épisodes de la lecture que donnait Marcel Pagnol du Château de ma mère. Première diffusion le 14 mars 1959 sur France 2 régionale. À suivre.